20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Nous passerons un petit moment ce soir avec la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert à l'occasion de la publication de leur nouvel album chez Alpha. Un bel album mettant à l'honneur des compositrices, un peu oubliées pour certaines, de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et puis nous nous évaderons à Liège, à l'Opéra de Liège, où se donne en ce moment une nouvelle production du Don Carlos de Verdi, et cela en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Mais pour commencer, quelques autres nouvelles du monde musical et notamment de l'Opéra de Paris. Stéphane Lissner, le directeur général, venant d'annoncer des mesures drastiques d'économie pour compenser les pertes dues à la grève, avec notamment l'annulation de 3 nouvelles productions prévues à partir de 2021. Elles seront remplacées par des reprises d'anciennes productions, avec la complication de redistribuer certains artistes dont les contrats ont été signés, mais aussi de ne pas confirmer certains engagements. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Il n'y a pas que les grèves qui perturbent la vie musicale. L'épidémie de coronavirus a également des conséquences sur l'activité de grands orchestres internationaux. Après l'Orchestre symphonique de Boston, c'est ainsi au tour de l'Orchestre symphonique de Washington d'annuler sa tournée en Chine, tournée qui était prévue pour le mois de mars. La scène musicale parisienne peut en revanche se réjouir d'accueillir les plus grandes phalanges internationales. Demain soir, Valérie Gergiev dirigera l'Orchestre philharmonique de Munich à la Philharmonie de Paris dans un programme qui s'annonce absolument envoûtant, bouleversant même. Un programme associant la 5e symphonie de Mahler aux 4 derniers leaders de Richard Strauss. Et c'est Diana Damrau qui chantera ces leaders de Strauss. La soprano allemande venant justement de s'illustrer au disque dans un programme entièrement dédié à Strauss, incluant bien entendu ses 4 derniers leaders, enregistré ici avec l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise et Marie-Sianne Sons, un enregistrement réalisé quelques semaines seulement avant la disparition du grand chef letton.
Thank you.
Frühling, l'un des quatre derniers leaders de Richard Strauss, par Diana Damrau avec l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise, sous la direction de Marit Jansons, l'un des tout derniers enregistrements de Marit Jansons, qui vient de paraître chez Erato. Diana Damrau chantera donc ses quatre derniers leaders demain soir à la Philharmonie de Paris, avec Valérie Gergiev et l'Orchestre philharmonique de Munich.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est un programme 100% féminin que viennent de nous offrir au disque la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert, un album tout juste sorti chez Alpha qui met à l'honneur des compositrices françaises de la fin du 19e et du début du 20e siècle, des compositrices dont les noms, à l'exception peut-être de celui de Mel Bonis ou de Lily Boulanger, ne nous sont guère familiers, mais dont les musiques méritent vivement d'être redécouvertes. On ne peut donc que saluer l'initiative de ces deux musiciennes, dont on apprécie d'ailleurs une nouvelle fois la si belle complicité. Juliette Hurel et Hélène Couvert sont nos invitées ce soir et elles nous racontent justement la naissance de ce projet.
Nous sommes partis de la sonate de Mel Bonis, que nous jouions déjà depuis un certain temps, et nous avions envie de faire un nouveau disque ensemble, parce qu'on aime tellement jouer ensemble qu'il fallait remettre ça sur un disque. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui irait bien avec ? Donc d'abord, on s'est renseigné sur les œuvres de Mel Bonis pour flûte et piano. Il y en a beaucoup, donc on a un peu tout déchiffré, écouté. Et puis on s'est dit, tiens, mais peut-être si on fait que Mel Bonis, c'est dommage. Et on a eu la chance de rencontrer Claire Baudin, qui est la directrice d'un festival qui s'appelle Présence Féminine, et qui m'a dit, mais tu sais, il existe beaucoup d'œuvres écrites par des femmes compositrices assez méconnues. Elle me dit, bah voici la liste. Et alors là, je découvre des noms que je n'avais jamais entendus, Clémence de Grandval, Augusta Holmès, Lily Boulanger, nous connaissions déjà, et Cécile Chaminade, je connaissais. Mais là, du coup, il y a eu tout un processus de recherche, d'excitation, je dois dire, et de déchiffrage. Et là, on s'est dit, du coup, ce sera plus intéressant et plus varié, peut-être, de faire un disque mêlant différentes compositrices qui, comme on peut, j'espère, l'entendre sur le disque, ont toutes une personnalité bien, bien différente.
Et c'est vrai que c'est parti de Mel Bonis, mais c'était intéressant qu'il y ait une certaine cohérence, quand même, et de faire découvrir ces compositrices qui sont très peu connues, vraiment même pas connu du tout, en vérité, à part de quelques initiés.
Surtout qu'en déchiffrant, on s'est rendu compte que c'était de la bonne musique. Donc oui, ça aurait pu être des musiques d'hommes. C'est surtout le fait que ce soit des œuvres peu connues qu'on a envie de faire découvrir. Et donc c'est vrai que le fil conducteur, c'est le côté femme compositrice.
Et d'une même époque, surtout. Hein, la toute fin du 19e, début 20e, c'était intéressant de voir les similitudes ou au contraire, les différences d'écriture.
Thank you.
Alors, votre album compositrice, Juliette Hurel et Hélène Couvert, met en avant des œuvres écrites par des femmes, donc, et notamment cette merveilleuse sonate de Mel Bonis, sonate que l'on peut classer parmi les grandes œuvres pour flûte du début du XXe siècle, avec la sonate de Poulenc et d'autres, Juliette Hurel.
On peut, mais étonnamment, c'est vrai qu'elle n'est pas encore beaucoup jouée par les flûtistes.
Oui, je parlais en qualité, pas en notoriété, malheureusement.
Bien sûr, en qualité, on peut tout à fait la mettre au même niveau. Ah oui, c'est une merveilleuse pièce, oui. Très équilibrée dans le jeu de la sonate. Vraiment, la partie de piano est aussi très intéressante. Et c'est ce qu'on aime, nous, avec Hélène, c'est jouer des œuvres où nous avons toutes les deux part égale.
Oui, la vraie sonate et pas de l'accompagnement, ce qu'on appelle dans le jargon musical, des saucissons.
Ah ouais, non ça saucissonne
vous
pas
saurez
ici,
tout.
Je confie. Comment expliquer justement que cette sonate de Mel Bonis et que d'autres œuvres passionnantes de cet album ne soient pas si souvent jouées? Vous pensez qu'il y a eu pendant très longtemps un mépris vis-à-vis de ces œuvres composées par des femmes, qu'on les a laissées de côté ou jugées peut-être avec une certaine distance?
En fait, en lisant ce qui était dit à l'époque sur ces femmes, c'est peut-être une des raisons. Effectivement, Saint-Saëns disait des mélodies écrites par Clémence de Grandval, elles seraient certainement célèbres si leur auteur n'avait le tort irrémédiable d'être femme. Donc, beaucoup de ces femmes aussi prenaient des pseudonymes pour ne pas être reconnues. Mel Bonis, c'est Mélanie, et elle ça se faisait appeler Mel pour pas qu'on sache que c'était une femme. Donc, peut-être que ça joue, après, elles étaient aussi moins connues. Quoique Augusta Holmès de son temps, comme Cécile Chaminade, étaient des femmes très très connues. Cécile Chaminade voyageait dans le monde entier en tant que pianiste et compositrice. Augusta Holmès a eu des commandes d'œuvres gigantesques pour l'exposition universelle 1889. Donc, elles étaient quand même aussi reconnues. Donc après, pourquoi elles sont tombées dans l'oubli, je ne sais pas vraiment.
Oui, moi je pense quand même que c'était très difficile. Hein, et ça l'est toujours un peu, beaucoup moins, mais difficile pour les femmes. Oui. Et à cette époque, 19e, début du 20e, il faut se souvenir quand même qu'elles étaient au second plan sur la création, sur les choses intellectuelles. Elles pouvaient pas faire médecine, on votait pas. La femme était au foyer.
Elles ont pu tout de même rentrer au conservatoire.
Oui, alors assez difficilement.
Mélanie Bonis a dû démissionner du conservatoire pour se marier.
Mais c'est vrai que ce sont des pionnières, parmi les pionnières. Chez les écrivains, c'était dur aussi. Hein. Regardez Georges Sand. Enfin, je pense qu'on a progressé, tout doucement, mais on progresse quand même.
Ça continue, heureusement.
Oui. Thank you.
Alors on découvre dans cet album compositrice que vous venez d'enregistrer, Juliette Turel et Hélène Couvert, des noms de compositrices qui nous étaient inconnus, comme Clémence de Grandval, dont vous avez enregistré une suite pour flûte et piano, une musique particulièrement séduisante, très différente d'autres pièces qu'on entend dans ce programme, puisque avec Lily Boulanger, on est dans des harmonies complètement différentes, avec Mel Bonis et Cécile Chaminat dans d'autres univers. On sent des pièces qui ont à la fois un côté léger, des pièces écrites certaines pour des salons. On sent également des harmonies qui nous plongent véritablement dans le XXe siècle. On trouve à travers toutes ces compositrices un éventail assez large d'écriture, d'expression, Juliette.
Oui, c'est vrai, mais par contre, je dirais une chose qui est commune, je trouve, à toutes ces compositrices, c'est qu'il y a un côté très vocal. Et dans tous les mouvements lents notamment, c'est vraiment des mélodies et on a eu beaucoup beaucoup de plaisir à travailler ça, tout ce côté legato, ligne, qui sont des mélodies extrêmement bien écrites pour la flûte mais qui pourraient aussi très bien aller pour la voix.
Parce que beaucoup d'entre elles ont composé des mélodies.
Oui, et puis elles chantent. Par exemple, Clémence de Grandval était aussi cantatrice. Et c'est vrai que c'était, à l'époque, tout le monde chantait, hein. C'était quelque chose de très...
Et oui, tout le monde savait chanter. Tout le monde, peut-être pas, mais enfin beaucoup, savait chanter. Mais
je trouve que jouer du piano.
Et alors là, je dois dire que Clémence de Grandval, il y a une vraie différence avec les autres. C'est qu'il y a une écriture pianistique très, très fournie. Mel Bonis aussi, mais enfin, très piano. Vous voyez, avec des octaves, des traits. C'est quand même une œuvre en cinq mouvements. Ça, je pense que ça pourrait être vraiment au répertoire. Et la flûte, quand même, a une partie bien dense aussi.
Ça serait un beau cadeau pour nous que cette suite de Clémence de Grandval soit jouée dans les années à venir et encore même après, parce que au même titre que les flûtistes jouent par exemple la sonate de Franck, qui pourrait s'apparenter un peu à celle de la suite de Clémence de Grandval, c'est-à-dire des œuvres entre guillemets costauds, où il y a vraiment un matériau au piano comme à la flûte très intéressant, et je ne vois pas la raison, vraiment. Pourquoi cette pièce n'est pas jouée. Donc, espérons que ce disque puisse jouer.
Ça, ce n'est pas une transcription, contrairement à Franck.
Oui, en c'est plus. Origine.
Et ben, grâce à cet album, la musique de Clémence de Grandval sera peut-être plus accessible et séduira un large public et d'autres flûtistes et pianistes qui auront envie de jouer cette pièce. Alors, vous venez d'enregistrer ce bel album consacré aux compositrices, Juliette Turel et Hélène Couvert, et vous rendrez hommage au mois d'avril à une autre femme, décidément, vous êtes dans des programmes féminins en ce moment, qui, elle, n'était pas compositrice, mais qui a inspiré aussi bien des peintres que des compositeurs qui, quelque part, a joué un grand rôle dans l'histoire de la musique. C'est Missia, à qui vous avez consacré un spectacle avec Julie Depardieu, qui sera redonné le 6 avril au Théâtre des Bouffes du Nord. Qui était Missia, exactement?
Elle était pianiste, déjà. Très, très, très bonne pianiste.
Élève de Gabriel Fauré, qui d'ailleurs était extrêmement triste quand elle a décidé d'arrêter le piano. C'est une femme qui a eu trois maris différents, et avec ses différents maris, son premier mari était le directeur de la Revue Blanche, et donc elle a pu rencontrer des écrivains, des poètes, des peintres, et elle devait être très belle, parce qu'elle a été peinte par Bonnard, par Vuillard, et puis après elle a rencontré Diaghilev, et là du coup, toute une relation avec Stravinsky, avec Debussy, et puis Cocteau, et puis Picasso, donc il y a des anecdotes à n'en plus finir, et c'est vrai que ce concert du 6 avril au Bouffes du Nord, l'idée nous plaisait beaucoup de le consacrer à ces femmes qui sont en fait assez éloignées, parce que nos compositrices du disque et Missia, certes, c'est pas vraiment le même monde. D'ailleurs, j'ai cherché, est-ce que Missia connaissait ses compositrices? J'ai trouvé aucun lien. Missia était essentiellement entourée d'hommes.
Hein. Oui, c'est une séductrice. Oui, elle avait un salon très important comme d'autres. Hein. Il y a eu la comtesse de Griffith. Enfin bon, mais vraiment, le tout, entre guillemets, le tout Paris était chez elle, hein. Amie de Coco Chanel, enfin, elle avait beaucoup de moyens, elle avait du goût, ça c'est certain, c'était certainement pas très facile, mais passionnante, et très peu de gens la connaissent aussi, cette femme.
Par exemple, il y a une anecdote qui est assez connue, mais quand Ravel a joué la valse au piano pour Diaghilev, Diaghilev avait donc commandé un ballet à Ravel, la valse, dédiée à Missia Certes, donc Ravel arrive dans le salon de Missia. Elle a organisé cette audition chez elle, donc Diaghilev est là, et Ravel vient jouer sa valse, et Diaghilev, à la fin, dit, écoutez, je suis désolée, c'est très beau, mais c'est pas une musique de ballet, donc j'en veux pas. Et là, Ravel plie sa partition et s'en va. Et Poulain, qui avait 22 ans, était là et a été témoin de cette scène. Et donc, c'est lui qui raconte ça notamment. Voilà, elle était au centre de tout.
Voilà, et c'est Julie Depardieu qui l'incarnera quelque part sur la scène des Bouffes du Nord. À vos côtés, le 6 avril, cet album compositrice qui vient de paraître. Est-ce que vous collaborez avec des compositrices d'aujourd'hui? Nous avions hier à notre micro Camille Pépin, par exemple.
J'aimerais bien la rencontrer, Camille Pépin.
Eh bien, on lui passe le message.
Oui, parce que je sais qu'elle a écrit récemment pour un ami clarinettiste, Julien Hervé. L'année prochaine, nous allons jouer aux Invalides un concert où nous allons jouer du Edith Canacici. Moi, j'ai beaucoup joué Betty Jolas dans le passé. Elle a écrit de très belles œuvres pour flûte. J'ai une passion pour Kaya Sarriao. Je trouve qu'elle écrit très très bien, un magnifique concerto pour flûte. Mais vous voyez, je me dis même pas est-ce que c'était une femme. Je me pose pas la question.
Ouais. Vaut mieux pas se poser la question, on joue de la belle musique, et qu'elle soit composée par un homme ou par une femme. Et en tout cas, c'est de la belle musique que vous avez réunie pour cet album qui vient de paraître chez Alpha. Merci beaucoup Julia Turel et Hélène Couvert.
Merci. Merci.
Pièce pour flûte et piano d'Augusta Holmès, un nouvel extrait de cet album Compositrice qui réunit donc la flûtiste Julia Turel et la pianiste Hélène Couvert, un album tout juste sorti chez Alpha.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Direction Liège ce soir, l'Opéra de Liège.
Exactement, cet opéra inauguré en 1820, un beau théâtre à la façade toute blanche avec des colonnes à l'antique qui trône sur une place ornée de la statue de l'enfant du pays, le compositeur André Modeste Grétry. Son cœur même a été déposé quelques années plus tard dans le socle de la statue. Alors cet opéra, il possède une salle italienne dont la rénovation qui a eu lieu entre 2009 et 2012 a permis de moderniser la machinerie, mais sans en altérer ni le charme ni la grâce qui ont été préservés à l'identique. C'est une salle où on se sent vraiment bien. Alors, souvent donné dans sa version en italien, le titre en est alors Don Carlo. Don Carlos de Verdi a en fait initialement été écrit pour l'Opéra de Paris et créé en 1867. Le compositeur imagina donc une musique qui collait à la langue française et donna naissance à un ouvrage fleuve qui fut ensuite, comme ça arrivait souvent, plusieurs fois remanié. Et l'Opéra de Liège a donc eu l'idée d'un retour aux sources et qui propose de nombreuses scènes qui ont été supprimées dès la création. Et puis au fil des différentes versions de l'œuvre. C'est donc une chance pour le public liégeois de pouvoir entendre des pages vocales, chorales et aussi orchestrales, très rarement portées à la scène, jamais presque même. Certaines éclairent l'action complexe de cette riche intrigue qui est à la fois politique, amoureuse, religieuse, familiale, et puis d'autres peuvent se goûter aussi comme des moments de musique admirables, vraiment admirables, comme ce duo entre le roi Philippe II d'Espagne et son fils l'infant Carlos, un duo au père-fils qui, affectivement, ne fonctionne pas du tout, mais qui pleurent tous les deux pour des raisons bien différentes, la mort du marquis de Posa qui a été exécuté sur ordre de l'Inquisition. Le chef, c'est Paolo Arrivabeni, ce chef italien, grand spécialiste du répertoire lyrique de son pays notamment, qui possède à la fois une rigueur, une endurance, parce que Don Carlos complet, c'est très long, qui n'exclut jamais la fougue ni le romantisme qu'il faut pour cette musique, ni un constant souci des couleurs et des équilibres entre les timbres de l'orchestre et entre l'orchestre et les voix. Et l'orchestre liégeois y répond comme un seul homme, si je puis dire. Chef et instrumentiste mettent donc en lumière toute l'orchestration très raffinée et très contrastée de Don Carlos. Par exemple, la chanson Sarrasine de la princesse Eboli, qui est accompagnée par un orchestre proprement exotique, plein de chants d'oiseaux et de sonorités merveilleuses. Et puis à l'opposé, les accords angoissants, terrifiants qui annoncent l'arrivée du grand inquisiteur venu dialoguer à l'aube avec le roi Philippe II et qui ponctuent cet extraordinaire duo entre les deux hommes. Alors Don Carlos, il est perdu, il est amoureux sans espoir d'Élisabeth de Valois, l'épouse de son père, mais qui fut très épisodiquement quelques heures sa fiancée, et il essaye de se raccrocher à l'amitié du marquis de Posa, ce courageux et subtil Rodrigue. On entendra d'ailleurs leur beau duo d'amitié dans quelques secondes. Rodrigue, qui est confié à la voix de baryton, Carlos est un ténor, le baryton verdien qu'aime tellement et que met tellement en valeur le compositeur. Et à Liège, c'est Lionel Lhote qui incarne ce rôle de Rodrigue, et de mon avis, en tous les cas, il domine un très beau plateau vocal, mais il est absolument stupéfiant. Il a vraiment, outre la diction merveilleuse en français, tout ce qu'on attend d'un baryton verdien, beaucoup de chaleur, beaucoup de style, d'élégance, de fougue. Il est vraiment absolument formidable à suivre dans les grands rôles de Verdi. Et puis, il faut citer aussi Grégory Kunde qui fait un Carlos très héroïque, très délicate en revanche Yolanta Oyanet. Et puis, on a tendu l'oreille pour une jeune voix, Caroline de Mailleux, qui interprète avec beaucoup de piquant le rôle du page. Et retenons ce nom parce que je pense qu'elle fera encore parler d'elle, Caroline de Mailleux. Et voilà, on se quitte avec Rodrigue et Carlos qui se jurent une éternelle amitié.
Dieu, tu semas dans nos âmes, le fameux duo entre Carlos et Rodrigue, du Don Carlos de Verdi, chanté ici par Roberto Alagna et Thomas Sampson. Don Carlos à l'affiche en ce moment à l'Opéra de Liège. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage. Jusqu'au 14 février, c'est noté. Merci beaucoup à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée que je vous invite bien entendu à poursuivre en musique avec Francis Drezel.